Le supplice du trait et de la piste. 30 jours après son départ de Dawson, le courrier de Saltwater, avec Buck et ses compagnons à l'avant, arriva à Skagway. Ils étaient en piteux état, complètement épuisés et usés jusqu'à la corde. Les 140 livres de Buck s'étaient réduites à 115. Ses autres camarades, alors qu'ils étaient pourtant plus légers, avaient perdu relativement plus de poids que lui. Pike, le simulateur, qui au cours de son existence de duplicité avait souvent feint avec succès une blessure à la jambe, boitait maintenant pour de bon. Sol Lex clopinait aussi, et Dub souffrait d'une foulure à l'omoplate. Ils avaient tous terriblement mal aux pattes. Ils n'étaient plus capables de sauter ni de rebondir. Leurs pas pesaient lourdement sur la piste, ce qui leur meurtrissait le corps et multipliait par deux la fatigue d'un jour de voyage. Leur seul problème, c'est qu'ils étaient morts de fatigue. Ce n'était pas l'épuisement passager dû à un effort bref et excessif et dont on peut se remettre en quelques heures. Non, c'était l'épuisement total, qui provient de l'extinction lente et prolongée des forces, consécutive à des mois de dur labeur. Il n'y avait plus en eux de possibilité de récupération ni de réserve de force à laquelle on put faire appel. Elle avait été intégralement usée, jusqu'à la moindre parcelle. Chaque muscle, chaque fibre, chaque cellule était fatiguée, morte de fatigue. Et il y avait une bonne raison à cela. En moins de 5 mois, ils avaient parcouru 2 500 milles, et pendant les derniers 1 800 milles, ils n'avaient eu que 5 jours de repos. Quand ils arrivèrent à Skagway, ils étaient manifestement au bout du rouleau. Ils pouvaient à peine maintenir les traits tendus, et dans la descente, ils réussirent tout juste à se tenir hors de portée du traîneau.
En avant, pauvres bêtes, vos pattes vous font mal, les encourageaient leurs conducteurs tandis qu'ils descendaient en titubant la grande rue de Skagway. Mais c'est fini. Maintenant, on va se reposer longtemps, hein? Mais oui, sûr et certain, un sacré long repos.
Les conducteurs étaient persuadés qu'ils pouvaient compter sur une longue halte. Eux-mêmes avaient couvert 1 200 milles avec seulement 2 jours de repos et en toute justice, ils méritaient raisonnablement une pause pour se prélasser. Mais il y avait tellement d'hommes qui s'étaient rués au Klondike et il y avait tellement de petites amies, d'épouses et de parents qui n'avaient pu les suivre que le courrier engorgé s'élevait aussi haut que les Alpes. En outre, il existait des ordres officiels. De nouvelles fournées de chiens de la baie d'Hudson devait remplacer ceux qui étaient devenus inaptes à la piste. Ces inaptes, il fallait s'en débarrasser. Et puisque des chiens comptaient peu face à des dollars, on devait les vendre. 3 jours s'écoulèrent, pendant lesquels Buck et ses camarades découvrirent à quel point ils pouvaient être fatigués et affaiblis. Puis, le matin du 4e jour, 2 hommes venus des États-Unis arrivèrent et les achetèrent, avec les harnais et tout le reste, pour une bouchée de pain. Les hommes entre eux s'appelaient Al et Charles. Charles était un homme d'un certain âge, au teint clair, avec des yeux humides et pâles. Sa moustache se redressait avec une énergie farouche. Impression démentie par la lèvre mollement abaissée qu'elle masquait. Al, lui, était un jeune homme de 19 ans ou 20 ans, avec un gros colt et un couteau de chasse attaché à une ceinture qui débordait de cartouches. Cette ceinture était ce qu'on remarquait le plus chez lui. Elle révélait son manque de maturité. Une immaturité indicible, à l'état pur. Les 2 hommes n'étaient manifestement pas à leur place, et la raison pour laquelle de tels êtres s'aventuraient dans le Nord relevait d'un mystère qui dépasse l'entendement. Buck entendit la négociation, vit l'argent passer de la main de l'homme à celle de l'agent du gouvernement, et comprit que le métis écossais et les conducteurs de l'attelage postal étaient en train de disparaître de sa vie, comme ça avait été le cas pour Perrault, François et les autres qu'ils avaient précédés. Quand on le conduisit avec ses camarades au camp du nouveau propriétaire, Buck constata que tout était négligé et peu soigné. Tente mal dressée, assiette mal lavée, un désordre général. De plus, il vit une femme que les hommes appelaient Mercedes. C'était la femme de Charles et la sœur de Hal. Une charmante petite famille. Buck observa avec appréhension la manière dont il s'y prenait pour défaire la tente et charger le traîneau. Il déployait de grands efforts, mais sans aucune méthode. Ils enroulèrent maladroitement la tente en formant un paquet trois fois plus grand qu'il aurait fallu. Les assiettes en fer blanc furent rangées sans être lavées. Mercedes voltigeait sans arrêt comme un papillon en gênant les deux hommes et babillait à jets continus des reproches et des conseils. Quand ils placèrent un grand sac de vêtements sur le devant du traîneau, elle suggéra de le mettre à l'arrière. Mais quand ils l'eurent installé à l'arrière et recouvert avec deux des paquets, elle découvrit des objets oubliés qui ne pouvaient se trouver que dans ce sac-là et ils durent décharger de nouveau. Trois hommes sortis d'une tente voisine regardaient en s'adressant des sourires et des clins d'œil. «
Vous avez là un bien joli chargement, » déclara l'un d'eux. « C'est pas moi qui devrais m'occuper de vos affaires. Mais si j'étais vous, j'emporterais pas cette tente. »«
Impensable !» s'écria Mercedes, qui leva les bras au ciel pour exprimer le désarroi de sa nature délicate. « Comment donc pourrais-je me débrouiller sans tente ?»«
C'est le printemps, vous n'aurez plus de temps froid, » répliqua l'homme.
Elle fit résolument non de la tête, et Charles et Hal placèrent les derniers articles restants au sommet d'un chargement haut comme une montagne.
« Vous pensez que ça ira ?» demanda l'un des hommes. « Pourquoi pas ?» coupa Charles plutôt sèchement.
« Oh, très bien, très bien !» se hâta d'approuver l'homme d'un ton doucereux. « J'étais juste un peu étonné, voilà tout. Ça paraissait un tantinet déséquilibré. »
Charles leur tourna le dos et tendit les courroies aussi bien que possible, c'est-à-dire pas bien du tout.
« Et bien sûr, les chiens peuvent trotter toute la journée avec ce machin derrière eux, » affirma le second.
« Assurément, » fit Hal avec une politesse glaciale, avant de saisir la barre de la direction d'une main et de faire tournoyer son fouet de l'autre.
« Hu !» cria-t-il. « Allez, en route !»
Les chiens bondirent contre les bricoles, tirèrent très fort quelques instants, puis renoncèrent. Ils étaient incapables de déplacer le traîneau.
« Les feignants, je vais leur montrer !» cria-t-il,
en se préparant à les cingler de son fouet. Mais Mercedes s'interposa avec des cris.
« Oh, Hal, tu ne dois pas faire ça !»
Et elle saisit le fouet et le lui arracha. « Les pauvres choux !»« Maintenant, il faut me promettre de ne pas être dur avec eux pendant le reste du voyage où je refuse d'avancer d'un pas. »«
J'apprécie tout ce que tu sais sur les chiens, » ricana son frère, « mais je préférerais que tu me laisses faire tout seul. »«
Ce sont des paresseux, je te dis. Il faut jouer du fouet pour en tirer quelque chose. »
C'est comme ça avec eux. Et demande à n'importe qui, hein. Demande à un de ces hommes.
Mercedes les regarda d'un air suppliant. On lisait sur son joli minois une répugnance indicible au spectacle de la douleur.
« Ils sont mous et tout faibles, si vous voulez le savoir, » répondit l'un des hommes.
« Complètement claqués, voilà le problème. Ils ont besoin de repos. »«
Le repos, on s'en fout, »
dit Hal entre ses lèvres imberbes. Mercedes fit « Oh !» peinée et attristée par cette inconvenance. Mais elle avait l'esprit de clan et se précipita aussitôt pour défendre son frère.
« Peu importe ce que dit cet homme, » déclara-t-elle ostensiblement. « C'est toi qui conduis nos chiens et tu les traites comme tu le juges bon. »
De nouveau, le fouet de Hal s'abattit sur eux. Ils se jetèrent sur les bricoles, enfoncèrent leurs pattes dans la neige tassée, s'arc-boutèrent et déployèrent toutes leurs forces. Le traîneau demeura immobile comme une ancre. Après deux autres essais, ils restèrent sans bouger, haletants. Le fouet sifflait brutalement. Alors une nouvelle fois, Mercedes s'en mêla. Elle se laissa tomber à genoux devant Buck, avec des larmes dans les yeux, et lui enlaça le cou avec ses bras.
« Pauvre, pauvre chéri !» s'écria-t-elle dans un élan de compassion. « Pourquoi ne tirez-vous pas plus fort ? On ne serait pas obligé de vous donner le fouet. »
Buck ne l'aimait pas, mais il se sentait trop malheureux pour lui résister. Cela aussi faisait partie des misères de cette journée de labeur. L'un des spectateurs qui serrait les dents pour éviter de s'emporter ne put se retenir de parler.
« Je me fiche pas mal de ce qui peut vous arriver à vous, mais pour les chiens, je veux juste vous dire que vous pourriez sacrément les aider en dégageant ce chariot. Les patins sont vite gelés. » Pesez de tout votre poids sur la barre de direction, à droite et à gauche, et décollez-le. »
Ils firent une troisième tentative, mais cette fois, Hal suivit le conseil et dégagea les patins qui avaient gelé et collé à la neige. Le traîneau surchargé et peu maniable finit par avancer. Buck et ses compagnons luttaient désespérément sous une grêle de coups. À 100 yards de là, le chemin tournait et débouchait en pente raide sur la grand-rue. il aurait fallu beaucoup d'expérience pour maintenir droite cette masse déséquilibrée. Et Hal n'en avait aucune. Quand ils prirent le tournant, le traîneau capota et renversa la moitié de son chargement à travers les courroies mal serrées. Les chiens ne s'arrêtèrent pas. Le traîneau allégé faisait derrière eux des bonds sur un côté. Ils étaient en colère à cause du mauvais traitement qu'ils avaient subi et du chargement injustifié. Buck enrageait. Il prit sa course, suivi de son équipe. Hal criait
« Oh ! Halte !»
Mais il n'en tenait aucun compte. Il trébucha et perdit l'équilibre. Le traîneau renversé lui passa sur le corps. Les chiens montèrent la rue à toute vitesse et à la plus grande joie de Skagway, ils dispersèrent le reste du matériel le long de l'artère principale. Des citoyens charitables rattrapèrent les chiens et rassemblèrent les objets éparpillés. Ils donnèrent aussi des conseils. Moitié moins de charges et deux fois plus de chiens s'ils comptaient atteindre Dawson. Voilà ce qu'on leur dit. Hal, sa sœur et son beau-frère écoutèrent de mauvaise grâce, dressèrent la tente et revirent l'équipement. Ils vidèrent les conserves, ce qui fit rire les gens, car sur la longue piste, les conserves n'existent qu'en rêve.
« Couverture pour hôtel !»
fit l'un des hommes qui venait à la rescousse en riant.
« La moitié, c'est encore trop. Débarrassez-vous-en. Laissez aussi cette tente et toutes ces assiettes. De toute façon, qui va les laver ?»« Bon Dieu, vous croyez que vous voyagez en wagon-lit ?»
Ainsi se déroula l'élimination inexorable du superflu. Mercedes pleura quand ses sacs de vêtements furent déversés sur le sol et que tout fut jeté article après article. Elle pleurait sans arrêt, et elle pleura en particulier sur chaque objet qu'on abandonnait. Elle croisait les mains sur ses genoux et se balançait d'avant en arrière comme si on lui brisait le cœur. Elle affirmait qu'elle ne bougerait pas d'un pouce, même pour une douzaine de Charles. Elle implora tout le monde, puis elle finit par s'essuyer les yeux et se mit à jeter même des pièces d'habillement qui lui étaient impérativement nécessaires. Et dans son zèle, quand elle en eut fini avec ce qui lui appartenait, elle s'attaqua aux affaires de ses hommes et les tria telle une tornade. Une fois cette tâche achevée, le matériel, même réduit de moitié, représentait encore une masse formidable. Charles et Hal sortirent le soir et acquirent 6 chiens supplémentaires. Ceci ajouté aux 6 de l'équipe d'origine et à Tick et Kuna, les huskies achetés au Rink Rapids pendant le trajet du record, portèrent l'attelage à 14 bêtes. Mais les chiens du dehors, quoiqu'ils furent presque dressés depuis leur débarquement, ne valaient pas grand-chose. 3 étaient des pointers à poil ras, l'un à Terre-Neuve, et les 2 autres des bâtards de race indéterminée. Ils paraissaient ne rien savoir, ces nouveaux venus. Buck, comme ses camarades, les considéraient avec aversion. Il leur apprit rapidement leur place et ce qu'il ne fallait pas faire. Mais il ne put leur apprendre ce qu'il convenait de faire. Ils n'appréciaient guère le trait et la piste. À l'exception des 2 bâtards, l'environnement étrange et sauvage dans lequel ils se trouvaient et le mauvais traitement qu'ils avaient subi les déroutaient et brisaient leur courage. Quant aux 2 bâtards, ils n'avaient absolument aucun courage. Il n'y avait que leurs os que l'on put briser. Avec ses novices désespérés et malheureux et le vieil équipage exténué par 2500 milles de pistes en continu, les perspectives d'avenir n'avaient rien de brillant. Les 2 hommes pourtant étaient de très bonne humeur. Et ils se montraient fiers aussi. Ils menaient grand train avec leurs 14 chiens. Ils avaient vu d'autres traîneaux partir pour Dawson par le col ou en revenir, mais jamais ils n'en avaient vu avec autant de bêtes. Étant donné les contraintes du voyage arctique, il y avait une bonne raison pour qu'un seul traîneau ne fût pas tiré par 14 chiens. Un seul traîneau ne pouvait transporter la nourriture d'un si grand nombre d'animaux. Mais Charles et Hal l'ignoraient. Ils avaient planifié le trajet un crayon à la main, tant par chien, tant de chiens et tant de journées. Mercedes regardait par-dessus leurs épaules et approuvait complètement. Tout était si simple. Le lendemain, tard dans la matinée, Buck remonta la rue à la tête du long attelage. Aucune vitalité, aucune énergie, aucun allant chez lui et ses camarades. Il démarrait mort de fatigue. Il avait couvert déjà 4 fois la distance entre Saltwater et Dawson. Et savoir que, éreinté et épuisé, il allait une fois de plus affronter la même piste le rendait amer. Il n'avait pas le cœur à l'ouvrage, ni d'ailleurs aucun autre chien. Les nouveaux étaient craintifs et effrayés, et les anciens n'avaient pas confiance dans leur maître. Buck sentait vaguement qu'on ne pouvait pas compter sur ces 2 hommes et sur cette femme. Il ne savait rien faire et, alors que les jours passaient, il devenait clair qu'il ne pourrait jamais apprendre. Ils étaient négligents dans tous les domaines, sans ordre ni discipline. Monter un camp peu soigné leur prenait la moitié de la nuit. Et il leur fallait une demi-matinée pour lever ce camp et charger le traîneau d'une façon si bâclée qu'ils passaient le reste de la journée à s'arrêter et à remettre d'aplomb le chargement. Certains jours, ils ne parcouraient pas 10 000. D'autres, ils étaient même incapables de démarrer. Et pas une seule journée, ils ne réussirent à faire mieux que la moitié de la distance moyenne choisie par les deux hommes pour évaluer la nourriture nécessaire aux chiens. Il était fatal que les vivres vinssent à leur manquer. Mais ils hâtèrent ce moment en nourrissant trop les bêtes, rendant ainsi plus proche le jour où commencerait la pénurie. Les chiens supplémentaires, dont l'estomac n'avait pas été habitué par une famine chronique à tirer le meilleur parti de petites quantités, avaient des appétits voraces. Et comme pour ajouter à cela les huskies épuisés tiraient faiblement, Hal décida que la ration classique était insuffisante. Il la doubla. Pour couronner le tout, quand Mercedes ne pouvait l'amener à force de cajolerie, avec des larmes dans ses jolis yeux et un tremblement dans la voix, à donner aux chiens encore davantage, elle volait dans les sacs de poissons et les nourrissait en cachette. Or, Buck et les huskies n'avaient pas besoin de poissons, mais de repos. Et ils avaient beau avancer lentement, le lourd chargement qu'ils traînaient minait sérieusement leurs forces. Alors vint le rationnement. Un jour, Hal prit enfin conscience que la nourriture avait diminué de moitié alors qu'ils avaient seulement couvert un quart du trajet. Qu'en outre, on ne pouvait espérer aucun supplément, ni en payant, ni en jouant sur les sentiments. Alors il réduisit même la ration normale et essaya d'augmenter le trajet quotidien. Sa sœur et son beau-frère l'approuvaient, mais leurs efforts étaient contrariés par la lourdeur du chargement et par leur propre incompétence. Rien de plus simple que de donner moins de nourriture aux chiens, mais impossible de les faire avancer plus vite, alors que leur propre incapacité à se mettre en route plus tôt le matin empêchait d'augmenter le nombre d'heures de trajet. Non seulement ils ne savaient pas faire travailler les bêtes, mais encore ils ne savaient pas travailler eux-mêmes. Le premier à s'en aller fut Dub. Pauvre voleur maladroit, toujours à se faire attraper et punir, il avait été néanmoins un travailleur fidèle. Son omoplate foulée, mal soignée et privée de repos, alla de mal en pis. Finalement, Hal l'abattit avec son gros colt. On dit dans la région qu'un chien étranger au pays meurt de faim avec la ration d'un husky. Les 6 chiens supplémentaires placés sous l'autorité de Buck devaient donc fatalement mourir avec la moitié de cette ration. Ce fut d'abord le Terre-Neuve, que suivirent les 3 pointeurs à poil court. Les 2 bâtards s'accrochèrent à la vie avec davantage de cran, mais finirent par y passer. À ce moment, tous les raffinements et toute la douceur des terres du Sud avaient abandonné ces 3 personnes. Dépouillé de son charme romantique, le voyage arctique devenait une réalité trop dure pour la virilité des 2 hommes et la féminité de leur compagne. Mercedes cessa de pleurer sur le sort des chiens. Trop occupée maintenant à se lamenter sur le sien propre et à se disputer avec son mari et son frère. Les querelles étaient la seule chose qui ne les fatigua jamais. Leur irritabilité naissait de leur malheur, grandissait avec eux, les augmentait, les dépassait de loin. La merveilleuse patience de la piste, celle qui vient aux hommes qui triment et souffrent dur, mais conservent dans la conversation leur gentillesse et leur aménité, ne toucha ni ces 2 hommes, ni cette femme. Ils n'avaient aucune idée d'une telle patience. Ils étaient raidis dans leur douleur. Leurs muscles, leurs os, même leur cœur les faisaient souffrir. Aussi, leur conversation devint-elle mordante, et du matin jusqu'à tard le soir, ils n'avaient plus aux lèvres que des paroles dures. Charles et Hal se chamaillaient toutes les fois que Mercedes leur en offrait le prétexte. Chacun nourrissait la conviction qu'il faisait plus que sa part de travail et aucun d'eux ne se privait d'exprimer cette conviction en toute occasion. Tantôt, Mercedes prenait parti pour son frère, tantôt pour son mari. Il en résultait une belle et incessante querelle familiale. À partir d'une dispute pour savoir lequel couperait quelques bouts de bois pour le feu, ce qui regardait seulement Charles et Hal, on en arrivait bientôt au reste de la famille, père, mère, oncle, cousin, à des gens éloignés de milliers de milles et dont certains étaient morts. Que les vues de Hal sur l'art ou sur le genre de pièces mondaines qu'écrivait le frère de sa mère puisse avoir le moindre rapport avec le fait de couper ces quelques bouts de bois pour faire du feu dépasse l'entendement. Néanmoins, la querelle pouvait aussi bien prendre cette tournure qu'aboutir aux préjugés politiques de Charles. Quant à établir un lien entre les médisances de la sœur de Charles et l'allumage d'un feu dans le Yukon, c'était une évidence pour la seule Mercedes, qui se défoulait en commérages interminables sur ce thème et accessoirement sur quelques autres traits déplaisants propres à la famille de son mari. Pendant ce temps, le feu n'était pas allumé, le camp demeurait à moitié établi et les chiens sans nourriture. Mercedes nourrissait une rancune spéciale, celle de son sexe. Elle était douce et jolie, et on l'avait traitée toute sa vie avec galanterie. Mais la manière dont la traitait à présent son mari et son frère était tout sauf galante. C'était son habitude de rester oisive. Il s'en plaignait. Empêchée d'exercer ce qui constituait pour elle la prérogative la plus essentielle de son sexe, elle leur rendait la vie insupportable. Elle ne tenait plus compte des chiens, et comme elle était endolorie et fatiguée, elle s'obstinait à monter sur le traîneau. Elle avait beau être douce et jolie, elle pesait 120 livres. La goutte d'eau en trop qui, s'ajoutant à la charge tirée par les animaux affaiblis et mourant de faim, faisait déborder la coupe. Pendant des jours, elle monta ainsi jusqu'au moment où il tombait dans les traits et où le chariot s'immobilisait. Charles et Al la suppliaient de descendre et de marcher, parlementer avec elle, l'imploraient. Pendant ce temps, elle pleurait et fatiguait le ciel en énumérant leur brutalité. Une fois, ils la firent descendre de force du traîneau. Ils ne recommencèrent jamais. Elle laissa ses jambes s'affaisser comme une enfant gâtée et s'assit sur la piste. Ils continuèrent leur chemin, mais elle ne bougea pas. Après avoir parcouru 3 000, ils déchargèrent le traîneau, revinrent la chercher et l'y remirent de force. Dans l'excès de leur propre malheur, ils restaient insensibles à la souffrance de leur bête. La théorie de Hall, qu'ils faisaient mettre en pratique aux autres, était qu'on devait s'endurcir. Il avait commencé à la prêcher à sa sœur et à son beau-frère. Comme il avait échoué, il la martelait au chien avec un gourdin. Aux Five Fingers, leur nourriture était épuisée, et une vieille squaw, édentée, leur offrit d'échanger quelques livres de peau de cheval congelée contre le colt qui tenait compagnie au gros couteau de chasse sur le ceinturon de Hall. Ce cuir constituait un pauvre succès d'années de nourriture. Il avait été arraché 6 mois auparavant aux chevaux morts de faim de quelques vachers. À l'état congelé, il ressemblait plutôt à des bandes de fer galvanisées. Et quand un chien réussissait, au prix de longs efforts, à l'introduire dans son estomac, il formait en se dégelant de maigres morceaux coriaces et peu nourrissants, et produisait aussi une masse de poils courts, irritante et impossible à digérer. À travers toutes ces épreuves, Buck titubait en tête de l'attelage, comme dans un cauchemar. Il tirait quand il en était capable. Quand il ne pouvait plus, il tombait et restait à terre jusqu'au moment où les coups de fouet ou de gourdin le remettaient sur ses pattes. Toute la fermeté et le brillant éclat de son beau manteau de fourrure s'étaient envolés. Son poil pendait, flasque et sali, ou bien mêlé de sang séché, là où le gourdin de Hall l'avait meurtri. Ses muscles avaient dépéri, réduits à l'état de cordes noueuses, et les coussinets de chair avaient disparu. Si bien que chaque côte et chaque os de sa carcasse se dessinaient nettement sous sa peau plissée, qui lui faisait un vêtement trop large. C'était à fendre le cœur, mais on ne pouvait fendre celui de Buck. L'homme au gilet rouge l'avait prouvé. Il en allait pour ses camarades comme pour lui. C'était des squelettes ambulants, 7 en tout, lui compris. Dans leur immense souffrance, ils étaient devenus insensibles à la morsure de la lanière ou à la meurtrissure du gourdin. La douleur de la correction paraissait émoussée et lointaine, comme leur semblait émoussé et lointain ce que leurs yeux voyaient et ce que leurs oreilles entendaient. Ils n'étaient pas à demi-vivants, pas même au quart. Ils étaient simplement autant de sacs d'os dans lesquels palpitaient faiblement des étincelles de vie. Lorsqu'on faisait halte, ils s'effondraient dans les traits comme des chiens morts, et l'étincelle faiblissait, pâlissait et semblait s'éteindre. Mais quand le gourdin ou le fouet s'abattait sur eux, l'étincelle reprenait une certaine vigueur et ils se remettaient sur leurs pattes en chancelant et titubaient plus loin. Puis vint un jour où Billy, la bonne patte, tomba sans pouvoir se relever. Hall avait cédé son revolver lors du troc. Il saisit donc la hache et le frappa à la tête, tandis qu'il gisait dans les traits. Puis il détacha la carcasse du harnais et la tira sur un côté. Buck vit tout cela, ses compagnons aussi, et ils surent que le même sort les guettait de très près. Le lendemain, ce fut au tour de Kuna de s'en aller. Ils ne restèrent plus que 5. Joe, trop mal en point pour continuer à être méchant, Pike, perclus et boitant, juste à demi-conscient et plus assez pour simuler, Sol Lex, le borgne, encore fidèle au supplice du trait et de la piste, et triste de conserver si peu de force pour tirer, Tick, qui n'avait pas voyagé aussi loin cet hiver et combattait maintenant plus que les autres parce qu'il était plus frais, et Buck, qui restait toujours à la tête de l'équipe, mais ne faisait plus respecter la discipline ou ne s'évertuait plus à la faire respecter. Rendu aveugle par sa faiblesse la moitié du temps, il suivait la piste uniquement par la vision indistincte qu'il en avait et la vague sensation de ses pattes. Cela se passait par un beau temps printanier, mais ni les chiens ni les humains n'en avaient conscience. Chaque jour, le soleil se levait plus tôt et se couchait plus tard. À 3 heures du matin, c'était l'aube, et le crépuscule persistait jusqu'à 9 heures du soir. Toute la longue journée flamboyait de l'éclat du soleil. Le silence spectral de l'hiver avait cédé la place au grand murmure printanier de la vie qui s'éveille. Ce murmure s'élevait de toute la contrée, empli de joie de vivre. Il provenait de tout ce qui vivait et se déplaçait de nouveau, de ce qui était resté comme mort et n'avait pas bougé durant les longs mois de gel. La sève montait dans les pins. Les saules et les trembles laissaient percer leurs jeunes pousses. Arbustes et plantes grimpantes mettaient leurs costumes de verdure tout frais. Les grillons chantaient dans la nuit, et durant la journée, toutes sortes de bestioles rampant ou marchant à quatre pattes avançaient en bruissant vers le soleil. Perdrix et pivert donnaient de la voix et du bec dans la forêt. Les écureuils jacassaient, les oiseaux chantaient, et haut dans le ciel cacardaient les oies sauvages remontant du sud, qui fendaient l'air en triangles impeccablement formés. De la pente de chaque colline s'écoulait le filet d'eau, la musique d'invisibles fontaines. Tout se dégelait, se courbait, se cassait. Le Yukon s'efforçait de se libérer de l'étau de glace qui l'enserrait. Il était rongé par en dessous et au-dessus par le soleil. Des poches d'air se formaient, des fissures apparaissaient et s'élargissaient, de minces sections tombaient entières dans la rivière. Et au milieu de toute cette vie en éveil qui éclatait, fendait, palpitait sous le soleil ardent, à travers le doux soupir des brises, comme des voyageurs promis à la mort, chancelaient les deux hommes, la femme et les huskies. Avec les bêtes qui tombaient, Mercedes qui pleurait et se laissait traîner, Hal qui jurait en pure perte, et Charles dont les yeux larmoyaient rêveusement, ils parvinrent en titubant au camp de John Thornton, au confluent de la White River. Quand ils s'arrêtèrent, les chiens s'écroulèrent comme si on les avait tous frappés à mort. Mercedes s'essuya les yeux et regarda Thornton. Charles s'assit sur un rondin pour se reposer. Il le fit très lentement en prenant beaucoup de précautions à cause de ses nombreuses courbatures. Hal fut le seul à parler. John Thornton achevait de tailler un manche de hache qu'il avait fabriqué à partir d'une branche de bouleau. Il écoutait tout en taillant, répondait par monosyllabes, et quand on lui demandait, donnait des conseils laconiques. Il connaissait cette race d'hommes, et il était sûr que ses conseils ne seraient pas suivis. Il prétendait en amont que le fond de la piste allait céder et que ce que nous avions de mieux à faire, c'était de nous arrêter, déclara Hal en réponse à l'avertissement de Thornton de ne pas prendre davantage de risques sur la glace pourrie. Il nous disait que nous ne pourrions pas atteindre la White River. Et nous y voici. Il prononça ces dernières paroles avec un accent de triomphe méprisant. « Et il vous disait la vérité, » répondit John Thornton. « Le fond peut céder à tout moment. Seuls des idiots, avec la chance aveugle des idiots, peuvent l'avoir fait. » Je vous le dis franchement, je ne risquerai pas ma carcasse sur cette glace pour tout l'or de l'Alaska. C'est parce que vous n'êtes pas un idiot, je présume, dit Hal. Malgré tout, nous continuerons jusqu'à Dawson. Il déroula son fouet.
Debout, Buck. Hey, debout. Avance.
Thornton continuait à tailler. Cela ne servait à rien, il le savait, de chercher à empêcher un idiot de commettre une idiotie. Deux ou trois imbéciles de plus ou de moins ne changeraient pas l'ordre du monde. Mais l'attelage ne se leva pas pour obéir à l'ordre. Depuis longtemps, il en était arrivé au point où il fallait des coups pour le réveiller. Le fouet lançait des éclairs, çà et là, implacablement. John Thornton serrait les lèvres. Seul Lex fut le premier à se remettre sur ses pattes. Tick le suivit, puis Joe en jappant de douleur. Pike fit de pénibles efforts. Deux fois, alors qu'il était à moitié dressé, il retomba. À la troisième tentative, il réussit à se lever. Buck, lui, ne fit aucun effort. Il restait tranquillement couché là où il était tombé. La lanière le cingla à maintes reprises sans qu'il gémît ni luttât. Plusieurs fois, Thornton fut sur le point de parler. Puis il changea d'avis. Ses yeux s'embuaient. Et comme le fouet continuait à claquer, il se leva et marcha de long en large d'un air indécis. C'était la première fois que Buck manquait à la tâche, raison suffisante en elle-même pour faire enrager Hal. Il abandonna le fouet pour le gourdin habituel. Mais Buck refusa de bouger sous la grêle de coups plus lourds qui s'abattaient maintenant sur lui. Comme ses compagnons, il était à peine capable de se lever, mais contrairement à eux, il avait décidé de ne pas se mettre debout. Il avait le vague pressentiment d'une issue fatale imminente. Cette idée s'était renforcée tandis qu'il tirait sur la rive et ne l'avait plus quittée. Était-ce la glace mince et pourrie qu'il avait sentie toute la journée sous ses pattes? Il semblait deviner le désastre tout proche, là-bas, plus loin, sur la glace où son maître essayait de le mener. Il refusait de bouger. Il avait tellement souffert et il était si faible que les coups ne lui faisaient pas si mal. Et comme il continuait à l'accabler, l'étincelle de vie qu'il avait encore en lui vacilla et fut près de s'éteindre. C'était presque fini. Il se sentait étrangement engourdi. Il avait conscience qu'on le battait, mais comme de très loin. Les dernières sensations de douleur l'abandonnaient. Il ne sentait plus rien tout en entendant très faiblement le choc du gourdin sur son corps. En fait, ce n'était plus son corps. Il semblait si lointain. Mais alors, soudain, sans avertir, en poussant un cri inarticulé qui ressemblait davantage à un cri d'animal qu'à celui d'un homme, John Thornton bondit sur l'homme qui brandissait le gourdin. Hal se trouva projeté en arrière comme si un arbre l'avait frappé dans sa chute. Mercedes poussa un cri. Charles, qui observait la scène d'un air rêveur, essuya ses yeux larmoyants, mais ne se leva pas à cause de ses courbatures. John Thornton se dressait au-dessus de Buck. Il luttait pour se contrôler, trop crispé par la rage pour parler. « Si tu frappes encore ce chien, je te tue !» parvint-il enfin à dire d'une voix qui s'étranglait. « Ce chien est à moi !» répliqua Hal, qui revenait en essuyant le sang de sa bouche. « Écartez-vous de mon chemin, ou je vous règle votre compte. Je vais à Dawson !» Thornton se tenait entre lui et Buck. Il ne manifestait nullement l'intention de s'écarter. Hal tira son long couteau de chasse. Mercedes criait, pleurait, éclatait de rire, et se laissait manifestement aller à une crise d'hystérie. Thornton frappa les phalanges de Hal avec le manche de sa hache et projeta le couteau à terre. Il lui frappa de nouveau les phalanges pendant qu'il essayait de le ramasser. Puis il se baissa, le ramassa lui-même et en deux coups cisailla les traits de Buck. Hal avait perdu toute sa combativité. En outre, sa sœur encombrait ses mains, ou plutôt ses bras, et puis Buck était trop moribond pour servir encore à tirer le traîneau. Quelques minutes plus tard, ils quittèrent la rive et descendirent la rivière. Buck les entendit partir et leva la tête pour regarder. Pike était en tête, Sol Lex à l'arrière, et entre eux, il y avait Joe et Tick. Ils boitaient et titubaient. Mercedes était montée sur le traîneau chargé. Hal guidait à la barre de direction, et Charles trébuchait à l'arrière. Tandis que Buck les observait, Thornton s'agenouilla à côté de lui et de ses mains rudes mais affectueuses, chercha les os cassés. Son examen ne révéla que de nombreuses contusions et un état de sous-alimentation terrifiant. Pendant ce temps, le chariot s'était éloigné d'un quart de mille. Le chien et l'homme le regardaient se traîner sur la glace. Soudain, ils virent son extrémité arrière plongée comme dans une ornière. La barre de direction, avec Hal qui s'y cramponnait, fut projetée brusquement dans les airs. Le cri de Mercedes parvint à leurs oreilles. Ils virent Charles faire un pas en arrière pour s'enfuir. Alors, tout un pan de glace s'effondra et bêtes et hommes disparurent. Un trou béant, voilà tout ce qui demeurait visible. Le fond de la piste avait cédé. John Thornton, et Buck se regardèrent. « Pauvre diable, » fit Thornton. Et Buck lui lécha la main.